Voici une traduction française de la conférence enregistrée numéro 6406C18 SHSBC24 intitulée L'étude, introduction. Il s'agit d'une conférence donnée par Elron Hubbard le 18 juin 1964 aux étudiants du St. Hill Special Briefing Course. Copyright 1964-1982, Elron Hubbard, tout droit mondiaux de reproduction réservé. Eh bien, moi aussi, je suis content de vous voir. Bien, quel jour sommes-nous? En ce moment, j'ai la considération que le temps est plus long, ça m'amuse énormément. J'ai remarqué que le 16 a mis 2 ou 3 jours pour s'écouler, et le 17 aussi. Et maintenant nous sommes le 18, le 18 juin AD14, Saint-Hill, Special Briefing Course. Très bien. La situation que nous avons avec l'auditing est liée à un sujet appelé l'étude. Si vous êtes incapable d'apprendre, vous serez incapable de faire quoi que ce soit. Je vous ai dit que la communication n'était pas l'objectif final de l'auditing, mais qu'elle était vitale si vous vouliez que le PC fasse quelque chose pour l'auditeur. C'est la même chose avec l'étude. L'étude est la porte, ouverte ou fermée, qu'il faut pousser pour apprendre à auditer. L'auditeur qui est incapable d'apprendre quoi que ce soit sera bien sûr incapable d'auditer, peu importe son attitude envers la race humaine, peu importe son désir de faire quelque chose pour les gens, peu importe toutes les intentions qu'il nourrit. Ces dernières se heurteront toutes à cet obstacle. Il est incapable d'apprendre. Donc, si l'on veut apprendre à auditer à quelqu'un, il lui faut d'abord être capable d'apprendre. Eh bien, voilà quelque chose de terriblement élémentaire, de terriblement fondamental. Il n'y a pas plus fondamental. Et tous les grands succès reposent sur les fondements. Tout repose sur les fondements. Si vous n'isolez pas les fondements, vous avez bien sûr un immeuble avec des fondations incomplètes. Si vous ne trouvez pas les fondements sur lesquels vous allez construire, vous aurez comme l'impression d'être suspendu dans les airs. Sans fondation, vous ne pourriez pas construire de gratte-ciel. Eh bien, quelle est la fondation? En auditing, la fondation, c'est bien sûr l'étude, l'aptitude à apprendre. Et l'auditeur qui n'a pas cette aptitude va avoir des difficultés énormes. La donnée que je vais vous communiquer maintenant est quelque chose que vous ne devez absolument pas vous coller derrière le lobe gauche et oublier, car elle va avoir une influence déterminante sur l'avenir de la scientologie dans le monde. La voici. La discipline de l'application, la technologie de l'application, l'aptitude à appliquer, constitue plus de 50% de la scientologie. Plus de 50% du sujet. Plus de 50%. Maintenant, peut-être que cette donnée ne vous paraît pas très impressionnante, mais permettez-moi de la développer et vous verrez, je pense, à quel point cette donnée est en fait impressionnante. Vous pourriez donner la totalité des procédés qui ont produit des résultats en scientologie, il y en a un nombre incalculable, à n'importe quel domaine qui s'occupe du mental, en lui donnant carte blanche, et juste les procédés, juste les commandements, et il serait incapable de faire quoi que ce soit avec. Il n'obtiendrait pas le moindre résultat. Il ferait une déclaration aussi idiote que celle faite une fois par l'Université de Chicago. En fait, l'Université de Chicago était un lycée, c'est comme ça que nous l'appelions à l'Université de George Washington. Mais nous étions gentils avec Chicago, la plupart d'entre nous voulaient y aller parce qu'il ne fallait que 2-3 ans pour décrocher son diplôme. Et nous nous ennuyions à George Washington. Quoi qu'il en soit, Chicago fit cette déclaration idiote. Nous avons testé toutes les techniques de Dianétique et nous avons découvert qu'elles ne marchaient pas. Eh bien, cette déclaration est idiote, Tout d'abord parce que les techniques de Dianétique n'existaient pas toutes sous forme publiée. Donc dès le départ, cette déclaration ne voulait rien dire. Par exemple, je connais des techniques qui avaient été mises en circulation à la première fondation de recherche Dianétique à Elisabeth, mais qui n'ont jamais été publiées. Je ne les ai jamais eues sous forme publiée. J'ai effectivement vu 3 ou 4 groupes dissidents soudain se servir de techniques destinées à un préclair bien déterminé ou quelque chose comme ça. Ils avaient décidé qu'elles s'appliquaient à tous les préclairs. Il y a plusieurs thérapies qui se promènent aujourd'hui qui avaient uniquement été développées pour un seul préclair, à Elisabeth. Donc vous avez cette université qui prend un air hautain et qui dit « Nous avons testé toutes les techniques de la Dianétique ». Vous parlez d'une déclaration. Ils n'ont même pas toutes les techniques. Comment peuvent-ils savoir qu'ils ont testé toutes les techniques? Nous voyons immédiatement que nous avons affaire à des irresponsables. Ensuite, ils disent « Elles n'ont pas marché ». Ben, ça aussi, c'est idiot, parce que même s'ils avaient appliqué ces techniques comme des pieds pendant leurs tests, ils auraient obtenu des résultats. À moins qu'ils n'aient dit ça à titre publicitaire pour protéger certains intérêts privés. Mais là n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que, oui, ils auraient pu avoir toutes les techniques, ils auraient pu, mais ça n'a pas été le cas, puis les tester à leur manière, au petit bonheur la chance, et elles n'auraient pas marché. Parce que dans leur rang, ils n'avaient pas de dianéticiens. Ils n'avaient personne qui était rompu aux disciplines de base de la dianétique. Donc, il leur manquait plus de 50% de la technologie, ce qui est loin d'être négligeable, voyez-vous. Je vais vous en donner un autre exemple. Reg et moi, alors que nous voguions sur les eaux bleues et profondes de la mer, avons inventé un cours qui n'avait rien à voir avec la scientologie. Il s'agissait d'un cours de vente et de commerce, qui comportait cependant une bonne part d'application de la scientologie au domaine de la vente et du commerce. Mais ce n'est pas du tout pour ça que ce cours a été créé. Reg a trouvé l'idée bonne et il a mis ce cours sur pied. Et ce cours a eu un succès extraordinaire. Ce cours continue actuellement, il marche très bien. Le seul ennui, c'est que tout le monde essaye de suivre le mouvement. Il s'agissait d'un geste de bonne volonté, ce cours n'était rien d'autre qu'un geste de bonne volonté, c'était pour essayer d'améliorer l'aptitude à vendre des détaillants et de leurs employés, afin qu'ils écoulent davantage de marchandises, voyez. Voilà l'objectif de ce cours, et tout le monde a essayé de faire pareil. D'autres gens ont commencé à enseigner ce cours, à enseigner leur cours à eux, avec le même objectif en tête. Récemment, une compagnie a demandé à Reg de donner ce cours à tout son personnel. Il lui arrive de recevoir ce genre de demande. Maintenant, Reg avait carrément dit, et cela s'applique tout particulièrement à cette conférence, « Eh bien, inutile de vous inquiéter s'il y a de la concurrence ou si d'autres gens donnent ce cours, ils échoueront, ils ne seront pas capables de dupliquer le cours. » Quoi qu'il en soit, voilà tous les faits liés à cette histoire. Ce cours pourrait continuer, et d'autres gens pourraient, entre guillemets, enseigner des cours similaires et faire ceci ou cela. Mais ils seront bien sûr toujours conscients d'au moins une chose, tout ce qu'ils font, c'est enseigner un ersatz. Ils n'enseignent pas l'original. Et les gens sont toujours vaguement conscients du fait que le cours de vente qu'ils suivent n'est pas le vrai. Eh bien, ce fait à lui tout seul agit suffisamment comme un overt, même chez le plagiaire, pour qu'on sombre dans un altéris obsessionnel. Et la déclaration de Reg, comme quoi ils sont incapables de dupliquer, est absolument vraie. Ils sont incapables de dupliquer et ne dupliqueront pas, un point c'est tout. Et il me semble que ces autres cours, je ne connais pas bien l'histoire, je ne me suis pas très bien tenu au courant, mais il me semble que d'autres cours aient fait leur apparition et qu'ils aient maintenant disparu. Et ce cours a provoqué tant d'enthousiasme qu'on a essayé de le dupliquer à droite à gauche. Il me semble que ce cours est toujours donné, il y a beaucoup de succès. Voilà probablement l'un des gestes de bonne volonté les plus délicats qu'ait fait un groupe depuis longtemps. Bien sûr, l'une des raisons pour lesquelles il a du succès, c'est qu'il comporte quelques principes scientologiques. Et s'il n'est pas dupliqué, il ne donnera pas de très bons résultats. Maintenant, supposons que ces autres cours, ces plagiats, se servent des mêmes méthodes, des mêmes techniques. Il leur manquerait quand même un élément quelconque, et cet élément manquant ferait du cours un fiasco. Bon, je ne vais pas m'apesantir sur cet exemple particulier, mais il est intéressant de constater que même un simple cours de vente, qui apprend aux vendeurs à être aimable avec les clients et tout ce genre de choses, même un cours comme celui-là échoue quand on s'écarte des principes sur lesquels il s'appuie. Donc même avec quelque chose d'aussi insignifiant que cela, on échoue. Et c'est comme ça partout. Je ne sais combien de technologies une université perd parce que chaque professeur se fait 90% de son salaire en disant aux étudiants d'acheter les livres qu'il a écrits. Je pense que lorsque vous avez réécrit James Watt, vous avez perdu la technologie des machines à vapeur. Et il est très probable qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas un seul ingénieur mécanicien qui possède vraiment la technologie des machines à vapeur. Elle a été altérée et déformée et dupliquée de travers, etc., etc. Ça me rappelle l'un de ces vieux bonshommes qui connaissaient vraiment leur affaire. Une fois, j'étais allé à une réunion aéronautique pour faire un reportage, et il y avait là un gars, c'était une journée très ensoleillée, et il était là avec des caoutchoucs et un parapluie. Le parapluie n'était pas ouvert, mais il l'avait là, prêt à servir. C'était une belle journée d'été, et je me suis demandé ce que ce personnage faisait là, à une réunion aéronautique, avec tous ces fous volants. J'étais venu faire un reportage sur la réunion, pour le journal The Sportsman Pilot. Je me suis dit que ce serait intéressant pour la petite histoire, alors j'ai subrepticement pris une photo de lui avec mon appareil, et je me suis enquis de son nom. Il s'appelait Young, et il avait été le deuxième homme à voler après les frères Wright. C'était probablement l'un des pionniers de l'aviation les plus célèbres de tous les temps. J'ai un peu rougi. Avec l'âge, il était devenu prudent, mais durant son heure de gloire, je ne pense pas qu'il était devenu prudent au point de ne plus voler, mais durant ses jours de gloire, quand on faisait décoller un avion, il y avait une ambulance qui roulait à côté. C'est vrai. Et ça a permis de sauver beaucoup plus de pilotes. Et Young avait été l'un de ses casse-coups. Et j'ai eu très envie de parler avec lui. Finalement, je fis un article sur lui, et il me montra ses brouillons. Et il y eut une chose qui me fascina tout particulièrement. Il existait 13 méthodes de vol. 13 méthodes de vol avec des engins plus lourds que l'air. Et l'aile rigide n'était que l'une d'elles. Et soit dit en passant, c'était l'une des méthodes que l'on préférait le moins. Et si on l'a finalement choisie, c'est parce qu'elle ne requierait pas trop d'ingéniosité technique. Mais il y avait 12 autres méthodes de vol avec des engins plus lourds que l'air, pas les ballons ou les zeppelins. Il y a toutes sortes de méthodes pour maintenir des engins dans les airs. Il y a le principe du bâton rotatif. Si vous lancez un bâton en l'air d'une certaine façon, il va ronronner, tourner sur lui-même comme une vrille, vous savez. Il va ronronner et vous le verrez monter dans les airs en décrivant une courbe. Vous le verrez monter de la façon la plus extraordinaire qui soit. Un simple bâton qui tourne sur lui-même. Et il y a beaucoup de méthodes de vol de ce genre. Et c'est parce qu'ils se sont concentrés sur l'aile que l'aile a gagné. Et maintenant, vous avez des avions partout dans le monde avec ces ailes rigides qui pointent du fuselage. Et cela surtout parce que les premiers pilotes n'avaient pas la possibilité de construire quelque chose de plus ésotérique ou de différent. Et il leur fallut donc concentrer leurs recherches sur l'aile. Et nous avons maintenant cette chose appelée un avion. Mais ce fut intéressant d'écouter le vieux Young, qui avait fait le plan de tous ces engins à l'époque. Ce fut très intéressant de l'entendre dire, avec un ton de déception, qu'ils avaient choisi de concentrer leurs recherches sur l'aile, alors que c'était l'une des méthodes les moins pratiques et les moins efficaces. Voilà donc une technologie énorme qui n'a jamais été développée et qui a été perdue au cours des 10 premières années de ce siècle. Toutes sortes de méthodes de vol, dont aucune ne fut développée. Toujours est-il que l'aile fut facile à développer et qu'elle fut donc développée. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que l'une de ces méthodes émergea du lot et fut développée. C'est ça qu'il faut voir. Mais ce genre de choses est très habituel dans les civilisations. Tout un tas de connaissances font leur apparition, puis on se spécialise dans une fraction de ces connaissances, cette fraction est ensuite mal dupliquée, et tout le reste de la technologie est perdu. Qu'est-ce que j'aimerais parler machine à vapeur avec James Watt ? Il pourrait probablement tout vous dire sur les chaudières à haute pression. Simplement, il n'avait ni le temps, ni l'argent, ni le matériel pour en construire. Mais peut-être que des dizaines de méthodes d'utilisation de la vapeur ont été perdues. Ce que vous étudiez aujourd'hui, c'est une technologie perdue. Une technologie perdue. Vous allez dire, oui, mais la civilisation progresse et gagne de toute façon. Eh bien, je vous invite à aller dans n'importe quelle direction, à partir d'ici, à Saint-Île, dans un rayon de 15 ou 20 kilomètres, et à essayer de ne pas trouver de vestiges d'une civilisation qui n'a pas gagné. Il y en a partout. Des civilisations qui ont péri, des civilisations manquantes, des civilisations qui n'existent plus, toutes ont disparu à cause d'une technologie perdue. Une civilisation commence à se spécialiser dans un domaine bien particulier. Il n'y a rien pour développer ce domaine. Finalement, elle en perd tous les fragments, et ce domaine disparaît. Il se peut très bien que cette civilisation dépende de ce seul domaine, mais elle n'a rien pour le développer. Autrement dit, elle le perd. C'est fascinant de voir les changements, les tournants et les altérations liées à ce genre de choses. Maintenant, vous pourriez dire beaucoup d'autres choses à propos de ces civilisations, mais ce que je suis en train de vous indiquer en ce moment, c'est qu'elles ne sont pas. C'est qu'elles ne sont pas parmi nous. Et ce furent de bonnes civilisations. Il y a eu ici la civilisation romano-bretonne, la civilisation danoise, la civilisation saxonne, la civilisation normande, toutes ces différentes civilisations. Vous en voyez les vestiges partout. Et que dire de l'ex-civilisation celtique ? Ça a dû être une sacrée civilisation. Vous pouvez lire quelque part que les Celtes, conduisant des chariots en osier, ont chargé à travers la forêt d'Ashdown. Qu'est-ce que c'est que ces chariots en osier chargeant à travers la forêt d'Ashdown ? Eh bien, reportez-vous à notre bon ami César, c'est lui qui en parle. Et cette civilisation a disparu. Nous ne savons rien de cette civilisation. Elle a dû être très avancée. Pourtant, le théâtre de cette bataille est à moins de 15 kilomètres de Saint-Île. Où est passée cette civilisation? Qu'a-t-elle fait? C'était une civilisation plutôt ésotérique. Des chariots en osier, voyez. Peut-être que quelqu'un a oublié comment on faisait pour tresser l'osier. Qui sait ce qui a bien pu arriver à cette civilisation? Donc le fait est que des technologies se perdent. Et il nous faut étudier comment elles sont perdues. Elles sont perdues parce que les gens ne savent pas étudier. Voilà la seule et unique raison pour laquelle une technologie se perd. C'est un fondement intéressant, non ? Intéressant que tout se réduise à ce fondement particulier. Donc nous n'entrons pas dans des choses ésotérique du genre « ils étaient incapables de dupliquer » ou « ils ne savaient pas faire ceci ». Disons simplement « ils ne savaient pas étudier ». Les civilisations tendent à atteindre une certaine apogée, puis sous la tension du combat et de divers éléments, elles commencent à perdre leur technologie. Eh bien, si elles perdent leur technologie, c'est simplement parce que personne ne l'étudie. Prenez l'orfèvre anglais. L'orfèvre anglais qui travaillait l'argent. L'Angleterre ne produit plus l'argent qu'elle avait l'habitude de produire. Ses orfèvres jouissaient d'une très grande renommée. Et puis il y a eu un gouvernement travailliste qui a mis tant de taxes sur l'argent que les objets en argent britannique sont devenus invendables. Ce gouvernement aurait aussi bien pu adosser les orfèvres britanniques à un mur et les fusiller, ce serait revenu au même. En effet, ces orfèvres ont changé de métier et la technologie s'est perdue. Et à l'heure actuelle, c'est pratiquement une technologie perdue. Eh bien, c'est uniquement au cours des 10 dernières années qu'elle a commencé à se perdre. Il vous faudrait vraiment insister très fort auprès des bijoutiers si vous vouliez savoir pourquoi il est impossible d'acheter de l'argent. Vous pouvez acheter des antiquités en argent, vous pouvez acheter l'argent fabriqué l'année dernière, bien c'est parce qu'il ne reste plus que 2 ou 3 orfèvres qui travaillent l'argent. Alors que va-t-il se passer? Il y a des gars qui ont appris le métier, et il existe beaucoup de manuels sur le sujet, et cette technologie existe toujours, mais elle va se perdre. Il ne fait aucun doute qu'elle va se perdre. Et que dire du vieux maître qui est le seul dans l'usine à connaître toutes les ficelles du métier? Et soudain ce domaine particulier connaît un nouvel essor, eh bien tout le monde va simplement compter sur lui. Ils ne vont pas apprendre le métier. Et tout cela vient du fait qu'ils ne sont pas capables d'apprendre. Ils sont incapables d'étudier. Je me suis toujours targué d'être un étudiant rapide, donc je parle en connaissance de cause ici. Je connais mon bagage et je connais mes lacunes. Lorsque vous cessez d'attacher une trop grande importance à votre statut intellectuel dans le monde, vous devenez capable de l'examiner et de voir s'il y a quelque chose qui cloche, et vous oserez admettre que quelques progrès ici et là ne vous feraient pas de mal. L'une des choses à savoir sur l'étude elle-même est qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Que vous pourriez étudier beaucoup de choses fausses et qu'à cause de cela, vous pourriez donc vous dégoûter de l'étude. Voilà l'une des raisons pour lesquelles vous pourriez cesser d'étudier. Je ne vois pas vraiment ce que cette raison a à voir avec le fait d'abandonner une étude. Tout ce que cela montre, c'est que vous devez faire preuve de jugement quand vous étudiez. Donc si vous étudiez sans le moindre jugement, ou sans la moindre aptitude à évaluer ce que vous étudiez, ou sans savoir ce que vous étudiez, eh bien vous seriez vraiment un piètre étudiant. Vous auriez un côté chinois. Je veux dire, les Chinois sont très bien, mais je me rappelle une situation particulière quand j'étais en 4e, je pense. Pendant plusieurs mois, j'avais été à toutes sortes d'endroits pour terminer mon école secondaire. Et en 4e, la situation suivante se présenta. Personne n'était arrivé à obtenir 20 sur 20, à l'exception de 2 Chinois. Ils avaient appris à étudier, mais à la façon des perroquets. Quand on les interrogeait sur l'histoire, ils se levaient et vous débitaient le numéro de la page, le paragraphe et tout le reste. Il vous redonnait le livre d'histoire mot pour mot. Le travail de duplication le plus extraordinaire que vous ayez jamais vu. Mais il n'était pas capable de vous dire dans quel univers nous nous trouvions. Et si vous aviez changé la moindre virgule, ou si vous leur aviez demandé leur opinion sur les matériaux en question, ils se seraient immédiatement cassé le nez. Et c'est ce qui leur arrivait fréquemment. Il leur fallait se rappeler si c'était au milieu du livre ou à la fin du livre, à quelle époque ça s'appliquait ou quelque chose comme ça. Le travail le plus extraordinaire de reproduction totale que j'ai jamais vu. Et ça énervait le reste de la classe parce qu'il recevait toujours 20 sur 20. Et pour le professeur, il constituait un tel exemple qu'il ne donnait jamais 20 sur 20 à ceux qui connaissaient le sujet. Quand nous récitions notre leçon à notre façon, le professeur nous interrompait rapidement et nous collait d'ordinaire 8 sur 20. Je ne leur pardonnerai jamais ce coup-là. Mais toute blague, mise à part, voilà un cas de duplication totale. Un cas de parfaite duplication qui n'est pas accompagné de la moindre miette de bon sens. Et ça, c'est mortel. Donc, ce n'est pas comme ça que vous étudiez. C'est mortel. Peut-être que vous en êtes capable, mais je considérerais cela comme un exploit intellectuel. Je ne pense pas que l'étude consiste en exploit intellectuel. L'étude, ça consiste à comprendre. Il n'y a vraiment qu'un facteur sur lequel l'étude repose formellement, la volonté de savoir. Voilà la première porte à ouvrir avant de commencer à étudier. La volonté de savoir. Si cette porte reste fermée, vous risquez de vous retrouver dans des systèmes tels que le mot pour mot ou le débit monotone. Vous risquez de vous retrouver dans toutes sortes de systèmes qui ne vous apporteront pas la moindre connaissance. Maintenant, rendez-vous compte que nous avons une chose en scientologie, une chose qui n'est pas très facile à mettre sous forme de texte et qui n'apparaîtra probablement jamais dans des textes. Il s'agit du savoir-faire. Rendez-vous compte que voilà le seul facteur qui est vraiment difficile à transmettre au moyen du mot écrit et qui est très facile à transmettre au moyen d'exemples concrets. Et j'aimerais attirer votre attention sur le début de cette conférence où j'ai dit que cela représentait au moins 50% de ce que nous faisions. Et j'aimerais aussi vous indiquer que le relais de nos données comporte un point faible dont dépend le succès futur de la scientologie. La scientologie pourrait très facilement devenir un sujet inapplicable. Vous pourriez prendre tous les GPM du monde. Qu'est-ce qui arriverait à votre avis si vous preniez tous les GPM et la carte complète du banque, avec toutes les choses placées correctement, et que vous donniez le tout au psychiatre? Je sais ce qu'il ferait. Il se mettrait immédiatement à analyser Edgar Allan Poe pour voir combien de fois ces mots reviennent dans l'un de ses livres. Puis il calculerait combien de fois chaque mot revient en moyenne et essaierait d'expliquer pourquoi Poe était fou ou quelque chose comme ça. Voilà probablement ce qu'il ferait avec ces matériaux. Il ferait joujou avec. Voyez ? J'ai même pensé à envoyer le tout à l'American Journal of Psychology. Par vengeance. Et soit dit en passant, si je leur envoyais un article, ils me remercieraient en se tapant la tête par terre. L'une des raisons pour laquelle ils sont un peu en rogne contre nous et pour laquelle ils m'ont soigneusement esquinté, c'est que je n'ai jamais publié le moindre compte-rendu de cas chez eux. Selon eux, j'aurais dû parce que ça aurait révolutionné tout le domaine. Voyez-vous, rien n'est révolutionnaire tant que ça n'a pas été publié dans leur magazine. Ils m'ont sévèrement critiqué pour cela, et j'ai pensé, pour me venger, leur donner la carte complète du banque et les laisser la publier. Le problème aurait été réglé une fois pour toutes. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on pourrait mettre toute cette technologie par écrit et la transmettre et obtenir le même résultat que l'université de Chicago, c'est-à-dire pas de résultat. Voyez ? Parce qu'il manquerait un élément, la discipline, la façon de procéder, le savoir-faire. Maintenant, un auditeur peut être si bon et son auditing si souple que, par exemple, vous avez une bypass charge énorme pendant la séance de co-audit, eh bien cet auditeur n'en causerait jamais le key-in. Et c'est pratiquement un exploit impossible en auditing, ce serait comme un dompteur qui est si adroit et si précis qu'il n'y aurait pas besoin de mettre de barre à la cage au lion. Ce serait quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, qu'est-ce qui rend une telle chose possible? La discipline de l'auditing. C'est-à-dire la formule de la communication, l'emploi de l'électromètre, ce que vous faites avec un PC, ce que vous ne faites pas avec un PC, etc., etc. Le fait de ne pas commettre pendant la séance d'auditing ce que Mary Sue appelle les erreurs grossières d'auditing dans les démonstrations télévisées. Le fait d'enlever ces mauvaises herbes, si je puis dire, de ne pas s'écarter du chemin tracé. Et tout cela représente plus de 50% de la scientologie. Nous devons donc, particulièrement maintenant, apprendre à auditer à la perfection, ici à Saint-Hilaire. Parce que si un auditeur du co-audit commet l'une de ses erreurs grossières d'auditing, l'une de ces erreurs grossières d'auditing que commettent régulièrement les débutants, le PC va se retrouver comme une voiture à la casse. En effet, il y aura une bypass charge suffisante pour aplatir le PC comme une crêpe. La bypass charge qu'on peut mettre en branle n'est pas mince. Mais le bon auditeur n'est même pas conscient de sa présence et la contourne avec suffisamment d'adresse pour ne pas provoquer l'effondrement du PC. Maintenant, inversement, si les auditeurs connaissaient leurs matériaux à la perfection, mais que leur aptitude à auditer était des plus médiocres, ils feraient de leur PC une espèce de crêpe rose pâle, même s'ils auditaient le procédé dans son intégralité. Vous comprenez ? Voilà l'autre aspect de la chose. Eh bien, si vous saisissez cela, vous saisirez ce que je veux dire quand je dis que la technique est une chose, mais que c'est la façon de l'appliquer qui fait rouler la voiture. Et voilà la chose qui a le plus de chances de se perdre. Donc cela veut dire que nous serons là tant que les auditeurs seront capables d'apprendre à auditer. Voyez-vous, vous n'avez vraiment pas besoin d'apprendre quoi que ce soit pour auditer des GPM. On pourrait vous donner le line plot sur un petit morceau de carton. Vous rendez compte, on pourrait probablement vous donner le line plot sur un petit morceau de carton. Et vous pourriez le débiter d'une façon ou d'une autre. Vous n'auriez même pas besoin de l'apprendre, vous savez, vous pourriez simplement laisser les mots s'écouler, un peu comme l'eau qui glisse sur les plumes d'un canard. Vous pourriez le répéter à la façon d'un perroquet, vous voyez, à partir d'une liste ou d'un petit morceau de carton ou quelque chose comme ça. Vous n'auriez pas besoin de l'apprendre. Le problème n'est pas qu'il faille l'apprendre. En fait, si jamais j'apprends qu'un instructeur demande à un nouvel étudiant d'apprendre un line plot par cœur pour qu'il ait plus de facilité à l'auditer, je donnerais à cet instructeur une GAE de taille. Ce serait la chose la plus abominable qu'on puisse faire. Donc, dans ce cas précis, la technologie n'est pas quelque chose que vous apprendriez. Vous n'apprendriez même pas ce qu'on appelle la technique. Surtout, ne le faites pas. Ça tue un étudiant, ce serait la fin des haricots pour lui. Si jamais vous découvrez un espion du FB... Je m'excuse, j'avais oublié qu'il y avait des demoiselles ici... Si jamais vous découvrez un espion en train de fouiner, eh bien dites-lui qu'il ferait bien d'apprendre par cœur. Vous n'avez même pas besoin de lui donner quelque chose de très dur, donnez-lui simplement l'un des line plots des Latrobus, et dites-lui qu'il doit commencer par l'apprendre par cœur. Donc, quand je vous parle d'apprendre... Je ne vous parle pas du tout d'apprendre la technologie. Nous savons que telle technologie appartient à tel grade, etc., etc. Tenez par exemple, je le fais très souvent, j'écris rapidement le procédé, je le place sous l'électromètre. Disons qu'il s'agit d'un procédé à plusieurs questions. Comme mon attention doit être sur l'auditing, je n'ai pas envie de me casser la tête à me rappeler quelle est la question avec laquelle le PC est en train de se débattre. Je n'ai pas envie de me casser la tête avec ce genre de choses, donc j'écris les 4 ou 5 commandements dans l'ordre et je mets la pointe de mon stylo sur le commandement auquel le PC est en train de répondre. Et quand nous arrivons au commandement suivant et que je vois que tout va bien, eh bien je regarde le morceau de papier et je me rafraîchis la mémoire. Vous voyez, comme ça, je peux avoir toute mon attention sur l'auditing et je n'ai pas besoin de m'occuper du reste. En fait, vous avez tout un tas de trucs. Par exemple, avec 2 questions auditées alternativement et répétitivement, votre index est la question positive et votre médium, la question négative. Et vous les touchez avec votre pouce. Quand c'est la question positive, vous mettez le pouce sur l'index. Et quand c'est la question négative, vous mettez le pouce sur le médium, et ainsi de suite. De cette façon, vous ne vous trompez pas de question et vous ne plongez pas le PC dans la confusion, et vous ne restez pas non plus assis là à dire « Maintenant, voyons voir, où en étais-je » Vous voyez ça? C'est n'importe quoi. Franchement, mis à part le fait de classifier la technologie, de savoir à quel niveau appartient tel fragment de la technologie, je dirais que vous n'avez rien d'autre à savoir dans ce domaine. Vous n'allez pas apprendre les commandements d'auditing. Vous allez apprendre quel type de commandement employer à tel niveau, mais vous n'allez pas apprendre le commandement. Vous n'allez pas apprendre de line plot, ou de GPM. Eh bien, voilà qui change complètement le caractère de « qu'est-ce que nous sommes censés apprendre ?» Je vous parle maintenant d'apprendre à appliquer la technologie, à la mettre en pratique. C'est de ça que je vous parle. Il est tout à fait fascinant de voir tous ces individus qui viennent pour apprendre un ou deux procédés et qui pensent ensuite tout savoir et pouvoir se débrouiller tout seuls parce qu'ils savent appliquer ces deux procédés. Et puis, pour une raison ou pour une autre, ces procédés ne semblent jamais fonctionner avec eux. Et ils n'arrivent jamais à comprendre pourquoi. Eh bien, ce que ce genre de personne devrait apprendre, c'est le sujet de l'auditing. Les bulletins qui traitent des bons indicateurs, les bulletins qui parlent des cycles de communication et tout ce genre de choses. Quels sont les outils du métier? Dans quelle catégorie classer ces outils? Comment les appliquer? Faites preuve de jugement dans l'emploi de ces outils. Apprenez-les bien pour être parfaitement décontracté quand vous les employez. Eh bien voilà toutes les choses qu'il faut apprendre. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on va invariablement les bâcler au profit de quelques trucs ou de quelques procédés. Autrement dit, la personne sera très heureuse d'apprendre les commandements d'auditing, mais elle ne veut rien avoir à faire avec le cycle de com. Maintenant, comme vous le savez, un cycle de com ne s'apprend pas comme ça. Vous ne pouvez même pas dire avec désinvolture « Eh bien, un cycle de com, c'est blablabla, et blablabla, il commence, et se poursuit, et s'arrête, et puis c'est tout ce qu'il y a à dire sur un cycle de com. » Bah, maintenant que nous savons tout ça, quel est le commandement d'auditing? C'est ça qui est important. Non. Ce n'est pas ça, l'important. Le commandement d'auditing ne marchera pas s'il n'atteint pas le PC. Et pour qu'il parvienne au PC, il faut un certain savoir-faire. Il faut se comporter comme un auditeur, parler comme un auditeur. Voilà ce qu'il faut pour que le commandement parvienne au PC. Eh bien, j'ai une expérience très amusante récemment. Il m'arrive de me délasser, moi aussi, et je décidais que je ferais mieux d'étudier quelque chose de complètement différent. Ça ne sert à rien de trop se concentrer sur un sujet particulier, et à l'époque, j'avançais comme une fusée dans le développement des matériaux classe 6. Je travaillais très dur, j'étais très concentré, etc., etc. Mais je me suis dit que cela n'allait pas m'occuper l'esprit complètement et que je pouvais aussi bien étudier un autre sujet qui n'avait absolument rien à voir, ce qui me permettrait de mettre mon attention sur autre chose. Il y a quelques années, dans un moment de faiblesse, j'ai imprudemment acheté un cours de photographie. Bien sûr, je faisais de la photographie depuis que j'étais tout gamin. C'est un merveilleux violon d'ingres qui me procure énormément de plaisir. Il m'est aussi arrivé de vendre des photos. Vous voyez, l'un de ces passe-temps où l'on s'amuse beaucoup. On me mettrait probablement dans la catégorie des amateurs qui se défendent. À une époque, quand j'étais à l'université, on m'avait classé dans la catégorie des professionnels. Je gagnais pas mal d'argent. Je travaillais pour le National Geographic, etc., etc. Je pense qu'on trouve toujours quelques photos de moi dans certains livres de géographie. Mais pour en revenir à ce que je disais, comme j'avais mon attention très fortement fixée sur un sujet, j'ai décidé que je ferais bien de la diriger sur un autre sujet. Donc, je me suis inscrit à ce cours de photographie par correspondance, celui du New York Institute of Photography, qui est l'un des meilleurs. Puis j'ai retroussé mes manches, et j'ai découvert que je n'avais jamais réussi à aller plus loin que la troisième leçon. J'ai donc décidé d'apprendre une ou deux choses sur l'étude. Et je me suis mis à étudier. Je me suis obligé à apprendre mes leçons comme un bon petit garçon bien appliqué, puis je les ai envoyées, leçon par leçon. Et vous savez quoi? Pour la première fois dans ma vie, j'ai appris quelque chose sur l'étude. J'ai appris quelque chose de très subjectif et de très réel sur l'étude. Si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas spécialement pour vous amuser, mais pour que vous puissiez vous servir de ces informations. Et voici ce que j'ai découvert. J'avais commencé à me demander pourquoi je m'étais arrêté à la troisième leçon. Bon, j'ai continué patiemment à étudier les autres leçons, mais pourquoi m'étais-je arrêté à la troisième leçon et pourquoi restais-je bloqué à certains endroits? Car j'avais des difficultés. Maintenant, bien sûr, le sujet de la photographie est un sujet très très étrange, qui est parfois très rébarbatif et qui est souvent très stupide, parce qu'il parle d'optique. Et vous, vous voulez prendre des photos, pas étudier l'optique. Mais il semble que l'optique soit un sujet que les professeurs de photographie chérissent avec beaucoup d'amour et sur lequel ils vous harcèlent. Et puis il y a la chimie, qui est un sujet très intéressant. Il y a un certain nombre de produits chimiques dont l'effet combiné vous donne une photo. Mais ça, c'est quelque chose auquel vous ne connaissez pas grand-chose. Puis vous êtes capable de produire un bon négatif, une bonne épreuve. Pourquoi diable devriez-vous étudier la chimie ? C'était plus ou moins mon attitude. Mais j'ai continué d'étudier comme un bon garçon, bien sage, et j'ai réussi chaque examen final, chaque livre comprenait un examen. Et soudain, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien au sujet, bien que m'y étant intéressé depuis l'âge de 12 ans. L'horrible pensée, la sinistre pensée. J'avais pris des photos, j'avais publié des photos, des gens m'avaient bien payé pour mes photos, elles avaient figuré sur la couverture de magazines très chics. Mais voilà que je n'y connais rien. J'en suis resté foudroyé. Vous rendez compte, mais voilà un sujet que j'appliquais depuis l'âge de 12 ans, et soudain je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien. Et ce n'était pas un cas d'amnésie soudaine ou quelque chose comme ça. C'était simplement, vous faites quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis brusquement, rapidement, j'ai passé en revue les réactions que j'avais eues. J'ai analysé très soigneusement toute la situation et ce qui s'était passé exactement. J'avais une très bonne réalité subjective sur le sujet. J'étudiais un sujet voisin, je vous obligeais tous à étudier, donc je devais connaître le sujet de l'étude. Et j'avais plus ou moins commencé à apprendre des choses concernant l'étude, et dans ce cas particulier, j'ai tout de suite appris quelque chose. Mon attitude vis-à-vis des gens qui avaient créé ce cours était que j'étais parfaitement disposé à apprendre quelques trucs. Et voilà l'état d'esprit avec lequel j'ai abordé ce cours. J'étais parfaitement disposé à apprendre quelques trucs. Je me suis rendu compte que j'avais fait preuve d'une arrogance absolument innommable par rapport au sujet. Mon arrogance dépassait les bornes. Regardez, je faisais de la photo depuis l'âge de 12 ans. J'avais étudié la photographie sous la direction de quelques-uns des vieux professionnels de l'époque, quelques-uns des photographes et des savants du gouvernement au Musée national avaient eu la patience de m'enseigner la photographie. J'avais lu des livres sur le sujet, j'avais lu ceci et cela, j'ai même travaillé dans des chambres noires professionnelles, et j'avais la preuve devant mes yeux, bonté divine, les gens te payent pour tes photos. J'ai pris des photos pour Underwood and Underwood. J'ai toujours dit que l'ennui avec mes photos, au fil du temps, j'avais de merveilleuses justifications. L'ennui avec mes photos au fil du temps, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de changer leur méthode. Ça expliquait tout. Depuis que j'avais commencé la photographie, ils avaient sorti des appareils photo miniatures, la pellicule panchromatique, différents types de développateurs, les flashs. Ils avaient changé toutes ces choses. Ils sont justement en train de changer quelque chose sous mon nez. Je travaillais avec une pellicule fabriquée par Ilford. Une pellicule si docile que le négatif a un très beau grain. Et maintenant, ils ont changé la sensibilité de la pellicule, et comme il est impossible de se procurer l'ancienne version, je ne sais pas quoi faire maintenant. Voyez, je rejetais la faute sur eux. Ils n'arrêtaient pas de changer mes outils de travail. Et je me suis rendu compte que la chose sur laquelle j'étais resté bloqué dans ces textes, parce que c'est un très bon cours, pour professionnel, absolument pas pour amateur. La chose sur laquelle j'étais resté bloqué, c'était les découvertes de Matthew Brady pendant la guerre de Sécession. Les fondements et les principes de base du sujet dataient de 1860 et je ne les connaissais pas. Ça n'avait rien à voir avec le fait de changer les outils de la profession. Je ne connaissais pas le premier fondement. Je ne savais pas pourquoi vous aviez une photo quand vous l'aviez prise. Et brusquement, à ce moment précis, je me suis rendu compte avec stupeur que je m'étais montré très arrogant et que je ne savais vraiment pas tout ce qu'il y avait à savoir sur la photographie. J'avais beau avoir obtenu quelques résultats dans le passé, ce n'est pas pour ça que j'avais été un maître. Il y avait quelque chose à apprendre. J'en ai soudain pris conscience. Je me suis attelé à la tâche et je me suis mis à bûcher. Très intéressante, la vitesse à laquelle j'ai progressé. 3 livres en 3 ans et demi, 8 livres en 2 semaines. Les 3 livres, c'était avant ma prise de conscience, et les 8 livres, après ma prise de conscience. Je me suis soudain rendu compte hier soir que j'avais déjà fait la moitié du cours. Il m'avait fallu 3 ans et demi pour terminer les 3 premiers livres de la 50aine de livres qui composent le cours. Pourquoi avais-je été incapable de progresser? Parce que j'étudiais quelque chose dont je savais tout. Je n'avais pas été capable d'aborder le cours avec décontraction en me disant « Voici quelque chose à étudier, étudions-le ». Non, je l'étudiais en me disant « Je sais tout ça, je sais tout ce qu'il y a à savoir ». Pourquoi diable étudiais-je ce sujet alors? Vous pouvez me le dire, puisque je savais tout, pourquoi l'étudiais-je? Et pourtant, je faisais semblant de l'étudier. J'ai même réussi à me faire croire à moi-même que je l'étudiais. Et je ne m'en suis même pas aperçu. Je faisais comme si. Mais j'étais vraiment persuadé que j'étudiais. J'avais lu les textes, mais en partant du principe que je savais tout. Et mon arrogance était telle que j'étais parfaitement disposé à apprendre quelques trucs. Très magnanime de ma part. Maintenant, le plus drôle, c'est qu'ensuite, tout mon point de vue sur le sujet a changé pendant que j'étudiais. Je savais quelle chose j'étais disposé à photographier, quel était le critère d'une bonne photo. Maintenant, je critique même leurs exemples de photos parfaites, je suis très critique, mais c'est une critique bien fondée. J'avais été incapable d'apprendre parce que j'étais persuadé que je savais tout, voyez-vous. Eh bien, cela m'est passé quand je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais rien. Il m'a fallu revenir aux bases et les étudier. Après les avoir comprises et bien étudiées, et après avoir continué à partir de là, je suis parvenu à un point où non seulement j'étais parfaitement disposé à apprendre, mais où j'étais aussi parfaitement disposé à remettre des choses en question. Je n'en étais plus au point où j'apprenais servilement. Je connaissais mes bases maintenant, je voyais à quoi elles s'appliquaient, et dans les limites et dans le cadre de ce cours, j'étais maintenant capable de remettre des choses en question. Autrement dit, je suis devenu capable d'avoir une opinion. J'étais maintenant capable d'avoir une opinion. Je pouvais faire preuve de jugement. Avant, je ne faisais pas preuve de jugement par rapport au sujet. J'avais simplement quelques idées fixes, et ces idées fixes me disaient que je savais tout ce qu'il y avait à savoir sur le sujet. Je finis par faire cette découverte de taille. Il existait des choses à apprendre que je ne connaissais pas. Il ne s'agissait pas de quelques trucs. Ce fut donc un retournement complet de la situation. J'étudiais dur, et cela me permit d'effectuer une autre percée de taille. Je libérais mon jugement. Maintenant, je serai capable de parler avec n'importe lequel de ces oiseaux. Dans ce cours, il y a des textes rédigés par des photographes très célèbres. Ce sont de bonnes données, bien fondamentales, bien solides, bien coriaces. Mais maintenant, je dirai à l'un de ces gars, « Allez, arrête, tu nous ponds de bons textes, mais regarde cette photo. » Comment se fait-il? Regarde, tu as raté tout le contraste. Ce serait une critique légitime. Et il en discuterait avec moi par-dessus le marché. Je lui dirais, Regarde, là, tu as fait disparaître tout le contraste. Il n'y a plus aucun contraste. Pourquoi ? Tu aurais au moins pu y remédier dans la chambre noire, que diable ! Et il dirait : « Bien, je ne croyais pas que quelqu'un remarquerait. » Je dirais : « Moi, j'ai remarqué. » Je serais critique, ce qui ne veut pas dire que critiquer est mauvais, mais que j'ai acquis un œil critique. Je n'ai pas besoin de dire servilement : voici une photo de Sam Falk du New York Times Magazine, l'un des plus grands photographes d'art de tous les temps, donc elle est sacrée. J'ai complètement dépassé ce point et j'en suis arrivé à un niveau où je peux dire maintenant : voilà une très très bonne photo. Ce gars a vraiment un bon sens de la composition, un sens remarquable de la composition. Mais qu'est-ce qu'il a trafiqué dans la chambre noire ce jour-là ? Il était sous ou quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? J'aurais pu mettre le doigt sur quelque chose avec lequel Sam Falk lui-même aurait été d'accord. Il aurait dit : c'est vrai, je n'ai pas mis assez de lumière avec l'agrandisseur sur ce contraste-là dans le coin, ce qui fait qu'on ne voit pas tous les détails de l'oiseau ici. C'est vrai, tu as raison. Le regard est attiré par l'autre coin, pas par le sujet principal de la photo. Tu as raison, j'aurais pu l'améliorer dans la chambre noire. Il n'aurait pas discuté. Ou bien il m'aurait dit : tu n'as pas vu le négatif, il était minable. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous aurions alors eu une discussion sensée. Car entre-temps, j'ai passé des nuits blanches à étudier la question. Mais ce qui ressort de tout cela, c'est que si quelqu'un est servilement fixé sur quelque chose, c'est qu'à la base, il ne comprend vraiment pas cette chose. Donc il doit avoir des idées fixes pour se défendre. Pour obtenir un effet de perspective, il faut quelque chose qui disparaît au loin. Donc si vous n'avez pas quelque chose qui disparaît au loin, il n'y aura pas de perspective sur la photo. Vous voyez le genre d'idées fixes, d'attitudes serviles, qu'on peut avoir par rapport au sujet de la perspective. Au lieu de dire, il y a maintes façons de donner à une photo un effet tridimensionnel, voyez ? Voilà un tout autre point de vue. Il y a plusieurs façons d'obtenir un effet de perspective. Un point de vue différent, voyez ? Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez regarder une photo et dire, ce photographe maîtrise bien la perspective. Ou bien vous dites, si ce gars s'était déplacé de 50 cm dans cette direction, la profondeur aurait probablement été différente et l'effet aurait été bien meilleur parce qu'il y a ici une ou deux choses dont il aurait pu tirer profit. Autrement dit, vous avez l'esprit souple, vous avez l'esprit flexible en ce qui concerne les principes de base. Et vous pouvez donc exprimer une opinion, non une idée fixe ou un préjugé. Il y a une différence énorme entre un préjugé ou une idée fixe et l'aptitude à se forger une opinion. Une opinion peut être basée sur beaucoup de choses. Mais quand une opinion est basée sur une inaptitude à découvrir la nature de la chose en question, eh bien vous passez pour un idiot. Et vous-même, vous vous considérez comme un idiot quand vous découvrez ce dont il s'agissait vraiment. Et donc, à cause de mes idées sur le sujet de la photographie, je n'arrivais pas à terminer une photo, à obtenir une photo terminée. Voilà l'une des premières choses dont je me suis brusquement rendu compte. Ce n'est pas forcément cela qui m'a fait prendre conscience que je n'étais pas le meilleur photographe du monde. J'en avais déjà pris conscience avant. Mais je me suis rendu compte du fait suivant. Vous êtes un bon photographe si vous êtes capable de terminer une photo. Rien d'autre. De toute évidence, c'est faisable de terminer une photo. Alors voilà. Et être un bon photographe, c'est aussi aller plus loin que ça. Faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Avant cette découverte, avant de me rendre compte que je n'avais absolument aucune idée de ce que je faisais chaque fois que je prenais un appareil photo, bon, je sais nettoyer des lentilles et faire toutes sortes de choses, mais je ne savais pas ce que je faisais quand je prenais un appareil photo. Je veux dire, il serait ridicule de ma part de croire que je savais ce que je faisais. Très ridicule. Vous avez quelques coups de chance, vous savez, et ça y est, vous êtes le meilleur. Mais par exemple, il fait un temps de cochon, et vous voulez prendre une photo. Si vous n'êtes vraiment pas sûr de vous et que vous ne connaissez pas votre boulot, vous allez dire, ouais, il fait un temps de cochon. Pas de photo aujourd'hui. Voyez ? Eh bien, si vous connaissiez vraiment votre appareil photo, vous vous moqueriez pas mal qu'il fasse un temps de cochon. Vous diriez, bon, très bien, clic, clic. Ou bien, qu'est-ce que nous voulons comme effet ici ? Un beau rayon de soleil. Très bien. Clic. Terminé. Ou bien vous diriez, intéressant, il y a un sacré brouillard ici. Eh bien, rendons ce brouillard encore plus épais et faisons une photo vraiment spectrale. Si vous connaissiez votre boulot, si vous connaissez votre boulot, vous pouvez tourner les choses à votre avantage, dans n'importe quelle direction. Vous ne serez pas la victime de tout ce qui se produit. Vous ne serez pas la victime de ce petit caillou sur la route. Le temps est trop mauvais, il n'y a pas de soleil. Ah. Allez, nous prendrons cette photo demain ou un autre jour, quand il fera plus beau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voulez dire que ça peut dégénérer au point où vous ne prenez plus la moindre photo ? Allons, un peu de sérieux. Pourtant, le gars qui n'est pas capable de dire « très bien, voyons voir », de prendre un appareil et de prendre une photo, eh bien ce gars ne sera pas capable de prendre une photo. Pour pouvoir prendre une photo, il doit bien connaître le sujet. C'est relativement facile. Tout ce qu'il a à faire, c'est se mettre à proximité de ce qu'il essaye de photographier. S'il connaît très bien ses outils, qu'il sait travailler en chambre noire, il obtiendra une photo très acceptable. Maintenant, la qualité de la photo dépend beaucoup de son expérience pratique. Donc, j'ai également appris cette leçon. Et pas qu'un peu. Les conditions environnantes ne déterminaient pas forcément les résultats que j'obtenais ou l'absence de résultats.
Le PC était ronchon aujourd'hui, c'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup audité.
Bonté divine, vous êtes auditeur, oui ou non ? Je veux dire, zut à la fin, le PC ronchon, et alors ? Vous êtes parti pour lui donner une séance, eh bien, donnez-lui une séance. Bon, il va vous falloir un peu plus longtemps pour que la séance marche bien. Eh bien, faites ce qu'il faut pour ça. Voyez la différence ici. Mais voilà les choses que j'ai apprises, grâce à cette petite étude parallèle. J'ai personnellement trouvé très intéressant de prendre un sujet qui n'avait rien à voir avec ce que nous faisions, et que je pratiquais depuis pas mal de temps, mais simplement comme violon dingre, de découvrir toutes sortes de données applicables concernant le domaine de l'étude, et de découvrir que la première chose qui vous empêche d'apprendre, c'est la considération que vous savez déjà tout. Et si vous voulez ériger un obstacle qui vous empêche d'apprendre, eh bien voilà tout ce que vous avez à faire. Considérez que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Ensuite, et c'est quelque chose de très amusant, ne permettez pas que ce que vous savez soit contaminé par votre absence de résultats. Et vous n'obtenez pas de résultats, il est évident pour vous que vous n'obtenez pas de résultats, mais cela n'ébranle pas une seconde l'idée que vous savez. Absolument pas. Bien que vous n'obteniez pas de résultats, cela n'ébranle pas une seconde votre conviction de tout savoir. Ensuite, il y a l'opinion fixe. On doit avoir certaines opinions fixes pour ne pas avoir l'air stupide quand le sujet est abordé. Et on ne fera pas preuve du moindre jugement tant qu'on sera embourbé dans tout un tas d'opinions fixes. Donc, pour faire preuve de jugement, il faut être libéré de ses idées fixes et être capable de bien évaluer les choses. Vous savez ce que vous savez et vous savez ce que vous ne savez pas, voyez ? Vous savez ce que vous savez et vous savez ce que vous ne savez pas. Autrement dit, vous ne vous débattez pas dans des chimères. Vous n'êtes pas en train de chercher à protéger quelque amour-propre nébuleux qui vous pousse à croire que vous êtes sage et merveilleux. Vous êtes détendu vis-à-vis du sujet. Vous pouvez dire, « Eh bien, il y a une section de ce sujet que je ne connais pas du tout. Va falloir que je la regarde de plus près un de ces jours. » Mais en même temps, vous n'avez pas le sentiment de ne pas savoir ce que vous savez. Donc le jugement dépend d'une connaissance parfaite du sujet. Et si vous ne faites pas preuve de jugement dans un domaine, c'est que vous ne connaissez pas ce domaine. Un point, c'est tout. Si vous constatez que votre jugement est souvent faux ou mauvais dans un domaine, eh bien voilà le signe que vous ne savez peut-être pas tout ce qu'il y a à savoir sur ce domaine. Si votre jugement était mauvais, ce doit être que vous ne connaissiez pas le sujet. Donc cela nous ramène au fait suivant. L'aptitude à apprendre d'un auditeur ne dépend pas forcément de son degré de stupidité, mais elle dépend certainement de son envie d'apprendre. Simplement de son envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre. Et le seul obstacle, c'est de croire qu'il sait, alors que cela ne s'accompagne pas du moindre résultat. Par exemple, vous avez une remarque du genre « Eh bien, je connais la scientologie, ça fait longtemps que j'étudie la scientologie et je la connais très bien, en fait, j'audite très bien. Bien sûr, je n'obtiens pas de très bons résultats. » Bref, il veut dire qu'il n'obtient pas de résultats. Il est possible d'obtenir des résultats, il l'a entendu dire, il l'a vu de ses propres yeux, et ainsi de suite. Il est possible d'obtenir des résultats, mais ce n'est pas pour cela qu'il va mettre en doute son assurance implicite, comme quoi il sait tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet, voyez-vous. Il ne doute pas de lui une seconde. Il s'agit bien sûr d'un simple manque de perception. Le gars ne voit pas. Il n'est pas capable de juger de ses aptitudes. Donc la façon dont il juge ce qu'il fait est si mauvaise qu'il commet cette erreur grossière. Il est en train de vous dire qu'un chat est un chien. Il est incapable d'obtenir des résultats, mais il sait tout. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur l'application de cette chose, mais il est incapable de l'appliquer. Eh bien, voilà une déclaration idiote. Et c'est le niveau de jugement le plus bas dont on puisse faire preuve dans n'importe quel sujet donné. Si vous examinez ce genre de choses, vous constaterez que presque tout le monde se sent poussé à rechercher le statut dans certains domaines particuliers. Le statut a beaucoup de choses à voir là-dedans. Vous savez, le gars est poussé à croire qu'il doit protéger son statut en se montrant arrogant et en leurrant tout le monde, y compris lui-même. Il doit penser du bien de lui-même, voyez-vous, faire semblant de savoir quelque chose ou avoir l'air très intelligent à ses propres yeux. En fait, vous pouvez classer cela dans la catégorie amour-propre. Voilà l'une des façons de conserver l'estime qu'on a pour soi-même. Il n'y a rien qui cloche spécialement avec cela. Je vous en ai parlé en mesurant mes paroles. Il est nécessaire qu'un individu ressente une certaine assurance. Mais il est aussi très intéressant de constater que ce besoin de statut et d'amour-propre s'évanouit en présence d'un savoir véritable et qu'il est remplacé par une estime réelle. Et c'est cette estime réelle qui est la plus impressionnante pour soi et pour les autres, car elle est fondée sur les résultats. La compétence, ça ne se discute pas. La compétence coupe court à toute discussion. Le critère n'est pas vraiment ce qu'une personne sait, mais ce qu'une personne est capable de faire. La psychiatrie en est un exemple merveilleux. Je n'aime pas démolir les psychiatres parce que de toute façon, ils sont démolis de tous les côtés. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je n'ai jamais été autant stupéfié que par cette clique. Ce n'est pas que je sois terriblement émerveillé par ce qu'ils font, mais une fois j'ai lu le contenu de l'un de leurs examens pour le diplôme de docteur en psychiatrie, et vous savez ce qui était demandé? La date, le contexte, le titre et la maison d'édition des conférences de Freud. On ne demandait pas ce qu'il avait dit dans ces conférences. On ne demandait pas qu'est-ce que vous pourriez faire dans le domaine de la psychiatrie. On leur demandait simplement quand la conférence a-t-elle été donnée, quel était son titre, dans quelle publication est-elle apparue. Et voilà en quoi consistait l'examen pour le diplôme le plus élevé de psychiatrie. Oh, vous allez avoir des psychiatres, ils essaient tout le temps de faire passer les gens pour des menteurs, vous allez avoir des psychiatres qui viendront vous dire « Oh, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai », c'est ce qu'ils sont en train de faire à Melbourne, « Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, il ne connaît rien la psychanalyse », etc., etc. Est-ce que la psychanalyse affirme que le sexe est l'impulsion première de la vie ?
Ma foi, oui.
Est-ce que cet article le dit ?
Oui.
Eh bien, est-ce que la psychanalyse tient cela pour vrai ?
Oui, mais Hubbard ne connaît rien à la psychanalyse.
Qu'est-ce qu'il ignore à propos de la psychanalyse ?
Eh bien, il ne connaît rien à la psychanalyse parce qu'il n'y connaît rien, un point c'est tout.
Mais de quelle psychanalyse voulez-vous parler ?
Eh bien, nous ne savons pas.
Il y a plusieurs types de psychanalyse. Vous allez inévitablement vous retrouver dans ce genre de discussion. C'est comme si vous pénétriez dans un marécage quand vous essayez de parler de ce sujet, voyez ? Donc ce genre de discussion n'a pas beaucoup de sens. Tout ce que j'essaye de vous montrer, c'est que c'est de l'idiotie pure et simple. Premièrement, est-ce que vous pourriez retirer quelque chose de cette conférence ? Deuxièmement, avez-vous été capable de l'appliquer ? Et troisièmement, si le gars connaît vraiment le sujet, il sera capable de répondre à la question suivante. S'il a vraiment répondu aux deux premières, il sera capable de répondre à la question suivante. Quelle est votre opinion de tout cela ? Qu'est-ce que vous pensez du sujet ? Voyez ? S'il connaît vraiment le sujet et qu'il l'a étudié, s'il connaît vraiment le sujet et qu'il est capable de l'appliquer, il aura une opinion personnelle, autonome, par rapport au sujet. Et il n'aura pas besoin de se servir de ses opinions personnelles pour se défendre. Vous voyez, ça n'aurait rien à voir avec l'amour propre ou quoi que ce soit d'autre. Son opinion du sujet serait libre. Autrement dit, il ferait preuve de jugement. Mais si vous mettez l'accent sur quelle est la conférence, quelle est sa date, où a-t-elle été publiée, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, etc. Vous n'aurez rien appris de plus à la personne que ce que vous apprendriez avec un système de fichiers. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le faire, avec l'action. Eh bien, dans le domaine de la photographie, dont je vous ai parlé comme ça en passant parce que je trouvais cela amusant, le critère, bien sûr, c'est êtes-vous capable ou non d'obtenir une photo ? Cela semble plutôt évident, non ? Ce n'est pas comme... Eh bien, la photographie est un art, maintenant, ce qui est intéressant, car ce n'est que récemment qu'on a élevé la photographie au rang d'activité artistique. Le Metropolitan Museum et d'autres musées exposent maintenant des photos en les considérant comme des œuvres d'art, alors qu'autrefois ce n'était pas le cas. Maintenant, il est possible d'être critique dans le domaine de la peinture alors qu'on ne connaît rien d'autre que les peintres et les tableaux. On pourrait avoir des opinions sur le sujet. Il s'agirait probablement de choses très rudimentaires, ce qui est très bien car c'est un domaine très vaste, très complexe. Et peut-être pourrait-on être critique de photographie sans vraiment être capable de produire une photo. Peut-être pourrait-on quand même être critique et même être un très bon critique. Mais le plus étrange, c'est que lorsque vous sortez d'un domaine purement artistique, pour entrer dans un domaine technique, une question brûlante se présente. Comment diable allez-vous savoir si telle photo a été traitée comme il faut dans la chambre noire ? Il nous faudrait savoir ce qu'on peut faire dans une chambre noire pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'on fait dans une chambre noire ? Est-ce que c'est mieux que ce qu'on aurait pu faire dans une chambre noire ? Ou est-ce que c'est pire que ce qu'on peut faire dans une chambre noire ?» Parce que nous avons affaire à un fait technique. Un fait technique, contrairement à l'art, requiert que l'on sache. Vous pouvez prendre une poignée de boue, la jeter contre un rocher et dire « c'est un tableau superbe ». Peut-être qu'il y a vraiment une forme et un motif, qui peut le dire ? Parce que l'art en général n'a pas vraiment de fondation technique. C'est un vaste domaine, un domaine énorme, voyez-vous, qui dépend surtout de ce que la personne aime ou n'aime pas telle forme, telle couleur, tel objet ou telle signification. C'est fondamentalement une question d'opinion, de toute façon. Mais dès que vous vous heurtez à un fait technique, que vous avez affaire à quelque chose de technique, eh bien vous devez savoir ce qui est faisable Vous devez savoir si c'est du bon travail, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Il vous faudrait en savoir long sur tout cela pour pouvoir vous forger une opinion sur le sujet. Autrement dit, il serait légitimement possible d'être critique d'art, mais je ne pense pas qu'il soit possible d'être critique de photographie si on ne connaît pas vraiment la photographie. Voyez, pour être critique de photographie, il faudrait connaître la photographie parce que vous devez savoir à quoi comparer ce que vous critiquez. Et il ne saurait y avoir de critique d'auditing qui ne sache pas auditer. Vous ne pourriez pas critiquer l'auditing si vous ne saviez pas auditer. Il vous faudrait savoir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Maintenant, tous ceux qui ont franchi les obstacles du co-audit ici récemment seraient d'excellents critiques d'auditing. Pas à cause des examens que je leur ai fait passer pour voir ce qu'ils savaient sur l'auditing, mais parce que les dures épreuves et les erreurs des deux ou trois dernières semaines vous ont appris quelque chose. Ça a été une épreuve très complète. Je ne pense pas que nous aurons une épreuve de ce genre dans le futur. Il n'y aura probablement pas autant de bypass charge, voyez-vous. Mais ça a été une épreuve très dure. Je ne l'ai pas fait exprès, les choses se sont simplement goupillées comme ça. Mais quelle épreuve fantastique! Ces gens doivent vraiment savoir auditer. Parce que dans des circonstances similaires, toute autre personne, en employant l'ITSA, mettrait le PC en rupture d'ARC. Voyez la différence. C'est très simple. Je veux dire, il vous suffirait de faire tomber une épingle à cheveux en plein milieu de la R6 pour que le PC ait une rupture d'ARC. La R6 doit être auditée avec beaucoup de souplesse. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui pense que la R6 ne la mène nulle part et que la technologie des GPM ne permet pas d'obtenir d'une façon ou d'une autre des résultats fabuleux pour les PC. Les résultats sont là. Très bien, cela vous montre donc qu'il doit y avoir une différence énorme entre un co-auditeur du niveau 6 et quelqu'un qui met un PC en rupture d'ARC en auditant l'ITSA. Mais je vous parie que si vous demandiez maintenant à un co-auditeur du niveau 6 de vous donner son opinion sur l'auditing de quelqu'un, il vous donnerait probablement une opinion très honnête, très spontanée, très assurée, très ferme. Vous lui demandez, est-ce que l'auditing de cette personne est bon ou mauvais? Ou bien, est-ce que c'était la façon correcte de procéder? Il vous donnera une opinion très valable. Et le statut n'aurait rien à voir là-dedans. Il vous donnerait simplement une opinion honnête sur le sujet, voyez-vous. Et si vous demandiez son opinion à quelqu'un capable de mettre un PC en rupture d'ARC en auditant l'ITSA, tout ce qu'il vous donnerait, c'est une ou deux idées fixes. Il ne serait pas capable de vous donner une opinion honnête. Et il y aurait une autre différence. Je vous parie que si vous donniez maintenant à l'un de ses co-auditeurs du niveau 6 quelque chose à étudier, il serait capable de voir la nature des données, le type de connaissances qu'il est en train d'étudier, et il ne se demanderait pas s'il est bon, mauvais ou sans importance qu'il apprenne ces données, ou bien si ça peut lui faire du tort d'apprendre ces données, ou bien si ces données correspondent à telle ou à telle chose, ou encore s'il sait déjà tout à ce sujet. Vous ne vous heurteriez pas à ce genre d'objection. Mais la personne qui met un PC en rupture d'ARC en auditant l'ITSA, surtout ne touchez pas à son arrogance. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet, depuis le début jusqu'à la fin. Elle sait tout ce qu'il y aura jamais à savoir sur le sujet, elle le connaît à la perfection, et elle se sentirait profondément insultée si jamais vous sous-entendiez qu'il y a quelque chose dans le sujet qu'elle ne sait pas. Voyez ? Il y aurait donc cette différence significative. Demandez à cette personne si elle est disposée à apprendre une ou deux choses sur le sujet, et vous la verrez se dérober à votre question. Bien sûr qu'elle n'est pas disposée à le faire. Elle part du faux principe qu'elle sait tout. Eh bien, demandez-lui, alors qu'est-ce que tu fais là à étudier le sujet si tu le connais si bien? Ça risque de la secouer. Mais c'est la seule chose sur laquelle vous devez secouer cet auditeur. Ce n'est pas qu'il est mal intentionné, c'est simplement qu'il est arrogant. Il lui manque l'humilité de l'infinie sagesse. Et il la remplace par cette arrogance qui lui fait dire qu'il sait tout, alors qu'il ne sait rien.
Il ne sait même pas ce qu'il ne sait pas.
Et voilà la porte qui vous ouvre le chemin de l'étude. C'est la porte que vous devez abattre, que vous devez enfoncer, avant de parcourir la route de n'importe quel sujet. Et peu importe qu'il s'agisse du sujet de l'auditing ou du sujet de la photographie, je pense que ce fait se vérifierait invariablement, de A jusqu'à Z. Donc j'ai dû franchir les obstacles d'un sujet complètement étranger et différent, et j'ai découvert que certaines choses restaient vraies dans tous les cas, et je les ai comparées aux expériences que j'ai eues en essayant de transmettre, d'interpréter ou d'enseigner la scientologie, et j'ai constaté qu'elles restaient vraies. J'ai constaté qu'elles restaient vraies de A jusqu'à Z. Je serais incapable de vous donner des dizaines et des dizaines de comptes rendus de cas et de vous dire qu'il y a beaucoup d'exceptions en dehors de ce domaine. Et je peux même vous dire... Par exemple, vous dites... Oui, mais il y a le gars qui ne voit pas et qui ne connaît pas la langue. Je ne sais pas, moi, mais comment se fait-il qu'il ne voit pas et qu'il ne connaisse pas la langue ? Il doit être drôlement arrogant. C'est très étrange, mais vous constaterez que même ici, le principe reste vrai. Si vous ne le croyez pas, allez vous entretenir un jour avec un rat des champs. Entretenez-vous avec lui sur la façon de vivre de l'homme. Ça risque d'être une conversation très divertissante. Et qu'est-ce que vous trouveriez comme arrogance ? L'électronique, la physique nucléaire, il n'en a jamais entendu parler, mais il sait tout sur ces sujets. Et voilà la chose qui nous fera échouer, nous autres scientologues, si jamais nous échouons. C'est à peu près la seule chose qui pourrait détruire notre technologie. Ce n'est pas le fait qu'elle se perdra, qu'elle partira à la dérive, qui la détruira. Elle ne se perdra pas car nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'elle ne se perde pas. La seule façon de perdre notre technologie, c'est de n'être pas disposé à l'apprendre, de ne pas du tout la connaître, et de ne pas savoir que la raison pour laquelle on est incapable d'apprendre est qu'on croit tout savoir, qu'il n'y a rien qu'on ne sache pas, alors à quoi bon apprendre ? Voilà un principe de base tout bête, presque idiot. C'est comme si vous disiez, pour traverser la rivière, il faut traverser la rivière, vous savez. Je veux dire, c'est l'une de ces données stupides, mais c'est justement les données stupides qu'on a l'habitude de perdre. Et en fin de compte, ce qu'il y a de plus intelligent à faire, c'est de s'en rappeler. Vous aurez toujours des difficultés si vous ne revenez pas aux principes vraiment fondamentaux. Et les principes vraiment fondamentaux sont toujours stupides et absurdes, et pas vraiment dignes d'être appris, ce qui explique pourquoi ils restent non-nazisés jusqu'à la fin des temps. Et c'est pourquoi ils persistent. Personne ne prend la peine de les apprendre. Essayer d'apprendre à un sauvage à nouer ses lacets sera toujours une affaire très énervante s'il ne voit aucune raison de porter des chaussures, qu'il ne sait pas ce que sont des chaussures, etc., etc. Donc vous essayez de lui apprendre à nouer des lacets, mais vous ne lui avez pas appris que pour avoir l'air civilisé, il doit porter des chaussures. Voyez-vous, vous pouvez complètement échouer lorsque vous essayez d'apprendre quelque chose à quelqu'un si vous ne l'abordez pas à son niveau de réalité le plus bas par rapport au sujet. Il y a toujours une première leçon à enseigner. Et quand votre instruction échoue, c'est que vous n'avez pas localisé la première leçon à enseigner. Les exemples ne manquent pas. Je pourrais vous fournir des milliers de données sur ce seul sujet. C'est très très intéressant. En ce qui concerne le sujet de l'étude, la première donnée à enseigner et le premier obstacle à surmonter, c'est la donnée suivante. Pourquoi l'étudier si tu sais déjà tout ? Voilà votre première donnée, votre principe de base, votre fondation pour ce qui est d'apprendre un sujet. Retenez cela et vous n'aurez aucune difficulté à enseigner quoi que ce soit à quelqu'un. Vous voyez qu'il passe un sale quart d'heure, qu'il lui faut un temps fou pour apprendre telle ou telle chose. Eh bien, vous feriez mieux de plonger tout droit vers le principe de base de l'éducation. Et la première chose que vous découvrirez, c'est qu'il sait tout du sujet. Et ce dont vous devez ensuite lui faire prendre conscience, c'est que s'il sait tout, pourquoi l'étudie-t-il ? Et puis, d'une façon ou d'une autre, il vous faut enfoncer la porte. Si vous y parvenez, il sera alors capable d'apprendre n'importe quoi,
à une allure vertigineuse.
D'accord ? J'espère que ces données vous aideront.
Merci beaucoup.